Les cours du Collège de France.
Et bonjour. Donc, reprendre le cours cette année après une période de vacances. Aujourd'hui, je vais parler de ce cours en régulier, qui est la partie un peu nouvelle de ce cours. Donc je vais discuter de la construction de ce cours en régulier qui se trouvait vraiment naturel et très utile quand on veut étudier ces espaces de modules, des morphismes d'une courbe ou d'une surface ou n'importe quoi vers un champ quotient. Donc la construction en soi ne pose pas de difficultés particulières. C'est un exercice de descente relativement facile, mais je vais discuter des exemples divers et variés sont assez intéressants. Donc c'est le quotient régulier une bonne partie de ce dont j'ai parlé fait partie d'un travail en cours de rédaction avec Morizé. Alors, comme d'habitude, on commence par un M, un K-schéma affine de T fini. On pourrait imposer des conditions de réductibilité, normalité, si on voudrait après, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et j'ai un groupe réductif agissant sur M. Donc c'est ça la situation de base, qui est vraiment très générale. On a le quotient le plus qui détruit le moins d'informations, c'est le quotient au sens champêtre. Donc on a M sur objet, c'est le quotient au sens des champs algébrique. Donc on a ce morphisme de M vers M sur G. Pour le définir, en fait, on définit une sorte de relation d'équivalence. C'est une relation d'équivalence lisse. C'est une relation défini par une relation d'équivalence lisse. Donc ici on a deux morphismes. Le premier c'est la projection sur M, et le deuxième morphisme c'est le morphisme d'action. Donc il y a des relations de constante de compatibilité, mais je vais passer sous silence. Donc, à chaque fois, une sorte de relation d'équivalence, de morphisme lisse, satisfaisant des conditions, on aura un champ quotient. Voilà. Et par ailleurs, on a le inconscient qui est en quelque sorte qui détruit beaucoup d'informations, c'est le quotient GIT, donc quotient au sens des invariants. Donc là, on a la notation habituelle, donc M mod G, c'est le schéma affine qui soit le plus proche des quotients. Donc ce serait le spectre de l'anneau des invariants. Donc l'anneau des fonctions sur M qui sont invariants sous l'action de G. Donc ça, c'est un cas schéma.
C'est un cas schéma.
Donc ça, c'est pas du tout un schéma. Donc,
mais ça, c'est par définition, c'est un cas schéma affine. Qui est de type fini. D'après le théorème fondamental de Hilbert. Mumford, Nakata, Abush,
donc, que j'ai discuté dans l'un des cours précédents. Pour l'une des propriétés principales de ce quotient, on va supposer K, je vais mon clos pour simplifier un peu les discussions. Donc l'une des propriétés de base du quotient au sens des invariants, c'est que l'ensemble des cas points est en bijection avec l'ensemble des orbites fermées de G dans M. Donc, ça vient en fait dans la démonstration du théorème de Hilbert. En fait, c'est vraiment dans la même suite d'idées. Mais ici, il y a un côté un peu désagréable de ceci, et que les orbites fermées ne forment pas, ça forme un sous-ensemble constructible. Donc, l'union des
orbites fermées. C'est un ensemble constructible. De M qui en général n'est pas localement fermé. En particulier, les propriétés de M, que géométriques de M, comme la lissité ne descend pas du tout ce quotient invariant.
Et donc la question est, est-ce que ce semble plus raisonnable de regarder les orbites régulières, en fait. Les orbites régulières, ça forme un sous-ensemble ouvert.
Un sous-ensemble ouvert de M.
Et donc le quotient régulier, l'idée de base, en fait, la construction est juste un peu plus compliquée, mais l'idée de base, c'est de mettre
une structure algébrique sur l'ensemble des orbites régulières. Donc, je rappelle les orbites régulières, les orbites de dimension maximale.
Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre comme structure sur cet ensemble d'orbites régulières? Ça forme un sous-ensemble ouvert. Donc, pour un peu de précision,
définition. Donc, X dans M de K est un point régulier si la dimension de stabilisateur est minimale
de l'algèbre de Lie. En caractéristique 0, il n'y a pas trop de différence entre l'algèbre de Lie et de groupe, mais en caractéristique P, je pense qu'il vaut mieux prendre l'algèbre de Lie. Donc, il y a une notation ici, c'est qu'on. Pour tout x dans M de K, je note I de x, c'est le stabilisateur, donc c'est des sous-groupes de G, tel que G égale à x. Et le I sur M est un schéma en groupe.
qui est un sous-schéma, en groupe. De M fois G, vu comme un schéma en groupe constant sur M. Et donc ici, on a donc l'I de I restriction, donc M rec et l'ensemble de X dans. C'est l'ensemble des points réguliers. Donc par la terme de semi-continuité, ça fait bien un ouvert. Et donc ce qu'on restreint l'algèbre de Lie à M, c'est un vectoriel, c'est de M rep, et un figure vectoriel. Et là, je n'ai pas vraiment vérifié les détails, mais je n'ai pas trop de doute que ça implique que I0. Donc I0, donc I contient un sous-schéma ouvert, c'est un sous-schéma en groupe ouvert des composantes neutres, des stabilisateurs. Alors I0 restreint M rep est un schéma en groupe lisse qui montre que l'algèbre de Lie est de dimension constante et la même dimension que I. Oui. Mais en général, la restriction à M, I et M rec n'est pas lisse. En fait, n'est même pas plat. En fait, ça c'est un peu la seule difficulté à écarter en quelque sorte pour définir le quotient régulier, parce que le sens radiateur, même un petit régulier, ne peut être pas plat. Donc l'exemple, c'est l'exemple en fait, qu'on voit bien dans les quand on étudie l'endoscopie dans le cas des groupes, en quelque sorte. Il y a une différence entre les éléments réguliers semi-simples et les éléments réguliers fortement réguliers semi-simples. Donc, exemple. G et PGN2. Donc M, c'est PGN2. Donc l'action, c'est l'action par conjugaison. Et on prend X, c'est la matrice 1, 0, 0, moins 1. Donc représentée par cette matrice, donc qui est régulière semi-simple. Une semi-simple, c'est diagonale, une régulière parce que le centralisateur est dimension A. Mais elle n'est pas fortement régulière semi-simple dans le sens où le centralisateur de X est le normalisateur du tore. C'est le normalisateur du tore. Donc il n'est pas commutatif. Vous voyez bien que les bandes groupes de Weil à distance de cette matrice, la transforme en moins 1 et 1, et qui est la même chose que 1 moins 1 dans PGN2. Donc ça, ça cause un petit problème. Donc ça implique en fait que la restriction de I à G régulier, donc ici régulier, ça veut simplement dire que l'orbite sa dimension maximale, il n'est pas plat. Parce que vous voyez, lorsque X est fortement régulier semi-simple, le centralisateur est allé le temps maximal, donc il est commutatif. Alors qu'en ce point un peu bizarre, il n'est pas commutatif. Donc la composante neutre, la composante non neutre du centre réacteur, il n'est pas dans l'adhérence schématique du truc. Donc il faut juste enlever ce machin. Voilà.
Qui n'est pas plat, ça fait pas toujours nécessairement un
mouvement. Alors, j'ai pas vérifié, mais je crois que oui. Mais le...
C'est par exemple, si G agit sur G sur, enfin, par exemple, GL2 agit sur PGL2 par translation.
Oui. Par translation.
Ouais,
enfin,
par...
Oui, non, mais tu veux
le...
Non, mais justement, j'ai fait exprès pour dire que l'algèbre de Lie soit les mêmes dimensions que les dimensions du groupe. Il faut mettre les conditions. Puis, la condition que j'ai mise peut être pas super précise, mais le... tu peux mettre des conditions pour que l'algèbre de Lie soit exactement une dimension du groupe, donc dans ce cas-là. Mais en fait, on... Dans les constructions, on a un peu, ça me donne plus de la platitude. Mais ici, tu... Donc, voilà. Et donc, à cause de ce petit point un peu ennuyeux, parce qu'il n'est pas ennuyeux, en fait, je crois qu'il n'est pas dans la nature des choses. Donc, on a besoin de... une donnée auxiliaire. C'est un schéma en groupe. I0, I prime, qui soit entre les composants neutres et I. Donc, et certain que I prime sur M ref soit le plat ou lisse, ça dépend. Sur ce point, je n'ai pas vraiment de. Je n'ai pas encore ficelé les choses, mais le plat, ça suffirait. Donc, une fois qu'on a ce I prime, donc, pourquoi on a besoin? Parce qu'on pourrait prendre I0, donc qui sera plat. Mais dans beaucoup de cas, on prend I' soit le tout le I, quand le I lui-même est plat. Donc, bon, pourquoi pas ne pas mettre une sorte de flexibilité I'. Donc, une fois qu'on a ce I', on peut construire. On peut construire le quotient régulier. M-REP, j'ai trouvé cette symbole LaTeX qui est pas mal, qui est entre le. Juste un I'. Et on enlève I', si I' est Y. Si Y est lui-même plat, on va l'enlever. On va prendre tout. Bien. Donc la construction, donc ce quotient, ça va être un champ de Deligne même forte. Qui est un espace algébrique. Si I' et Y. Imprimer tout. Donc la l'inertie finie vient simplement de la différence entre I' et Y quand on est forcé d'introduire cette différence. Et bon, si nature si M REC est lisse ou normal, n'importe quelle propriété, alors M, le quotient régulier l'est aussi. Donc, c'est même un quotient, sans qu'il hérite toutes les propriétés de l'espace.
Alors,
la construction est vraiment, évidente, c'est une sorte de double descente. En fait, c'est la double descente que j'ai dû utiliser pour construire le centralisateur régulier dans le cadre de l'assemblage jointe. Il faut y avoir une sorte de double descente, si vous avez vu. Donc, on a, en tout cas, on a ce diagramme-là. Je fais un diagramme pour résumer un peu la situation. Donc ça, c'est le truc habituel. Ici, on a MREG. Ici, c'est une dimension ouverte. Donc là, c'est MRG. Là, c'est le quotient champêtre. Donc c'est une dimension ouverte. Donc là, on a un nouveau quotient. Donc là, ce morphisme est plus compliqué. Ça, on va étudier plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on va expliquer la construction de ce quotient et de discuter des exemples. Alors,
on suppose pas pour l'instant qu'il y a une orbite fermée régulière.
Comment ?
On suppose pas qu'il existe une orbite fermée régulière pour l'instant.
Ça, nous ne supposons rien, mais les cas intéressants sont dans le cas où il y a vraiment une orbite fermée régulière, où on a une description de ce quotient par une amende. De... Donc, c'est un quotient, donc, bien sûr, on a un morphisme de MREG vers ce MREG régulier. J'appelle ça Q pour m'épargner d'écrire des trucs trop longs. Donc c'est équivalent, bien sûr, de construire la relation d'équivalence. Donc c'est MREC. MREC au-dessus de Q. Donc c'est tautologique. Pour construire le quotient, on n'a pas construit cette relation d'équivalence. Et bien sûr, cette relation d'équivalence, c'est aussi lui-même un quotient. Donc la relation d'équivalence est elle-même un quotient, donc MREC, fois MREC, sur Q. Donc bien sûr, on veut que ça soit un quotient de M fois G. MREC fois G. Donc là, c'est la projection. Et là, l'autre morphisme, c'est l'action. Pardon. Je m'embrouille. Donc c'est MG. Si on voit sur M, GM. Et on veut construire la. On veut construire la relation d'équivalence. Pour définir la relation d'équivalence. Et bien sûr, donc là, quand on regarde un peu ce qu'on veut faire, et bien sûr, ça va être I' fois G. Donc on a le morphisme de I' fois G. Donc le P1, P2. Donc ici, si on a un H dans I', donc G dans G. Donc H, c'est un schéma en groupe, donc ça s'envoie sur un M, dans M rect. Donc P1, ça va être un truc évident, donc on va s'envoyer sur X. Donc P1 de HG, ça va être simplement... XG et P2 de HG, ça va être X et G iota de H, ou si vous pouvez mettre à gauche ou à droite, ça dépend un peu de comment on va utiliser les choses, ou iota et l'inclusion évidente de I' dans dans M fois G.
Donc I', c'est un sous-schéma en haut de M fois G. Donc on va translater la variable G par ce iota. Et c'est tout ce qu'on va faire. Donc par définition, si on a un point... si on a un point X dans MREG, alors la fibre de la fibre de ce Q, de Q au-dessus de X et G divisé par I' de X. C'est ça qu'on voulait faire. Donc,
on a fixé un X dans le...
Non.
Le X correspond au petit H.
Oui. Oui, le I' est en groupe, donc il est au-dessus d'un X. Oui. Donc c'est ça la recette. Oui, depuis en point X, on va pas prendre le G, mais on va prendre le G divisé par le I'. Et pour le mettre ça en termes de... On le formalise en termes d'essence, c'est ce qu'on trouve. Et bien sûr, tout est plat, parce qu'I' est plat. Donc on a besoin de la platitude d'I' au-dessus de MREF pour faire cette construction. Voilà. Donc ça, c'est ce quotient régulier. Alors, je donne quelques propriétés de ce quotient. Donc, ils sont formels, parce que le fait que c'est une construction par un double descente.
C'est un espace algébrique quand c'est I0 règle ou quand c'est Y?
Quand c'est Y. Oui. La différence justement se trouve entre le quotient de I et... On verra dans un exemple, je vois. Donc la proposition. Oui.
Q de pas sur M règle, mais sur... Je veux dire on le projette sur Q.
Il a deux projections sur M règle.
Non mais Q c'est quoi?
Q c'est ça. Ah pardon.
Il a deux notions.
Non, pardon. Ah, ouais. C'est ça, c'est M règle. Ouais, enfin, M règle sur Q, pardon. Je m'embrouille moi-même. Oui. Position, bien sûr, ce M break. est un champ algébrique de Lie forte et c'est un espace algébrique si I' et Y. Enfin, à la fin, je vais donner un exemple même rigolo où on trouve un espace algébrique qui n'est pas un schéma. On ne peut pas couvrir par des sous-schémas à fil de schéma. Deuxième, I' sur M règle descend. On a un lien sur ce quotient. Donc ça, un lien, c'est, si je me souviens bien de la terminologie de Giraud, c'est un schéma en groupe. C'est un schéma en groupe. Défini à automorphisme intérieur près. Donc c'est que quand on restreint la topologie étale, on trouve des schémas en groupe, et la donnée de recollement n'est pas donnée comme un automorphisme, c'est un automorphisme à des automorphismes intérieurs près. En particulier, si I' est commutatif, un lien J
et commutatif. Alors J est étagément en groupe, donc parce qu'il n'y a plus de retournement intérieur. Donc s'il est lisse, il dit ici I prime est lisse. Mais dans certains cas, il n'est pas commutatif. Dans des exemples d'espace symétrique, on pourrait trouver des GN2, par exemple. Mais on en discutera plus tard. En tout cas, le troisième, c'est donc ça, c'est un peu le troisième, c'est pourquoi on voit cette construction, parce que MREC sur G vers ce quotient régulier est une GEB liée par ce J. Donc, autrement dit, on a une GEB et J, ce sera le lien de cette GEB. Donc voilà, donc je ne vais pas en dire plus. Pourquoi on aimerait bien ça, la prochaine fois, je vais donner des exemples. Comment on peut décrire de façon relativement uniforme des fibres de Hitchin, en particulier pour des groupes réels, à partir de ce genre de propositions. Il y a des exemples où des. Lorsque J n'est pas commutatif, où on trouvera la fibre de Hitchin, ce sera des espaces vectoraux, des. D'espace de modules, des fibres de rondeau sur une courbe spectrale, par exemple. C'est dans le jeu qu'on peut en déduire.
Donc la dernière insertion, c'est seulement si I' est commutatif que la flèche.
Non. Donc là I' n'est pas commutatif, donc ce sera quand même une gerbe. Donc il est comme un lien, pas un lien. Ah. Oui, donc ça, c'est. Commutatif. Ou pas. Donc maintenant je discute des exemples. Je trouve des exemples. Je vais donner une longue liste d'exemples qui sont en soi assez intéressants. Il y a d'abord l'exemple de base, c'est que le G agit sur la GEB de Lie. Donc dans ce cas-là, en quelque sorte, le I, Y est lisse. Et bien on va prendre I prime et Y, on ne va pas s'embêter. Et dans ce cas-là, on a le quotient régulier et la même chose que le quotient invariant. Donc c'est ça le charme de ce cas. Et la même chose que j'ai sur J. Donc dans le morphisme de G, vers G fois G, il y a une seule orbite fermée et une seule orbite régulière. Donc du coup, les deux quotients qu'on définit, c'est la même chose. Oui, c'est que la deuxième exemple qui illustre la nécessité d'introduire ce I prime, c'est l'exemple de PGN2. Donc l'exemple, c'est l'exemple du quotient de donc G est un groupe semi-simple donc agissant sur lui-même par conjugaison. Donc dans ce cas-là, on sait que le quotient au sens des invariants, donc c'est par la version moderne de Chevalet, est la même chose que le quotient du temps maximum par le groupe de Weil. Mais ce quotient-là n'est pas toujours régulier, sauf si G est simplement connexe. Donc c'est ce phénomène est vraiment bien imbriqué dans cette construction du quotient régulier. En fait, parce que le quotient régulier, lui, il est toujours lisse. Mais donc. Donc quand G est semi-simple, est simplement connexe, alors tout se passe comme dans le cas de façon adjointe. On a donc T sur W est un espace affine. Et j'ai règle sur T de V et lisse, etc. Donc pour se rapprocher, on va considérer le revêtement simplement connexe. Donc on a GSC. Si on va sur G, et donc le quotient c'est Z. Si j'ai adjoint Z sera le centre du groupe simplement connexe. Et donc ici, bien sûr, on a l'ensemble de G par conjugaison. Et on a aussi l'ensemble de G sur son groupe simplement connexe, parce que le centre. Parce que l'action de GSC sur lui-même se factorise par G. Donc si on a donc qu'on avait remarqué que le même X est régulier semi-simple. Ix n'est pas forcément peut-être peut ne pas être commutatif. On va le modifier un peu. Donc on va prendre donc x dans g. On va prendre x prime dans gsc qui est au-dessus de x. Et on va prendre y prime x. On va définir y prime x comme le il exprime. On va demander qu'il stabilise le point exprime. Donc en faisant ça, on va le forcer simplement connexe. Donc du coup, on a la chose suivante. On a G divisé par V par I prime de G. C'est la même chose que GSC divisé par G est divisé par Z. Et donc ceci est un schéma. Ceci est la même chose que T sur W, DSC sur W divisé par Z. Mais le Z, il n'agit pas librement sur ce machin. C'est pour ça que le quotient régulier relatif à ce choix de I' et le quotient au sens de champ de cet espace affine par ce groupe fini. Donc il est lisse, mais le quotient grossier, ça c'est le quotient le T sur W c'est le quotient grossier, donc qui n'est pas lisse. Donc si c'est un peu la situation. Donc, en quelque sorte, dans cet exemple, parce qu'il illustre bien l'une des particularités de ce quotient régulier. En fait, il comprend bien ce phénomène de la différence entre l'élément régulier semi-simple et l'élément fortement régulier semi-simple. Donc ça, c'est l'une des propriétés de ce quotient régulier. Donc, l'autre propriété est illustrée par cet exemple de base qui est l'ensemble hyperbolique. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de base. On a donc GM. AJ sur A2. T de X, Y. Et TX, T moins 1, Y. Donc les orbites sont des hyperboles, sauf il y a une croix dans la fibre centrale, il y a trois orbites. Donc il y a une orbite fermée et deux orbites régulières. Donc, ici, là c'est des bords d'orbite régulière semi-simple. Puis au milieu, il y a cette fibre à trois orbites. Donc là, c'est une orbite fermée, mais il y a deux orbites régulières. Donc ici, le morphisme quotient, le A2 divisé deux fois par GM, c'est A1. Et puis une variable Z. Avec Z, c'est X fois Y. Et donc ici, on voit bien que le stabilisateur, il est trivial sur les parties régulières. Donc il n'y a pas besoin de faire cette distinction entre I' et I. On a dans ce cas-là, on a le M règle, c'est A2, moins 0, et M règle, le quotient régulier, et c'est la droite à double origine. Donc si on recolle 1-1 avec la droite affine avec elle-même, donc en dehors de 0. Donc ça fait comme on a 2-0 au lieu d'un. Donc ça, c'est vraiment les exemples typiques qui nous aident à faire une description dans beaucoup de cas. Donc il y a en quelque sorte deux phénomènes. Il y a le phénomène champêtre, comme l'exemple du PGN2. Et l'autre phénomène, c'est le phénomène de transmission hyperbolique. Dans les autres cas, en quelque sorte, c'est. Dans beaucoup de cas, c'est en quelque sorte de mélange entre les deux. Donc, il y a l'un des cas qui est l'espace symétrique. Donc, ici. J'ai un groupe réductif sur un portage de mon club de temps testé 0. Ce n'est pas nécessaire, mais je n'ai pas vérifié tout. Donc là, c'est un cas qui a été étudié par mon étude en Heimester, en collaboration avec Moïse. Donc, θ de V dans G, c'est une involution. Et donc, on prend θ et la composante neutre des points fixes de θ. Et on se donne, on va essayer un groupe H, il se donne un groupe H qui est entre les deux. Donc, sinon, dans ces histoires, il faut vraiment prendre cette subtilité entre K et G theta. Et donc, on va décomposer G, l'algèbre de Li, en deux parties. Donc, il y a l'algèbre de Li de K et le complémentaire. Donc, ici, theta égale à 1. Ici, theta égale à moins 1. Donc la donnée de l'espace symétrique, en quelque sorte, c'est G, theta. Et ce H qui est entre les points fixes des θ et sa composante neutre. Et on regarde l'action de H sur la partie moins 1. Donc, il y a bien sûr le cas A, le cas usuel, le cas diagonal. G, c'est G1 fois G1. Θ de G1, G2. et G2, G1, et K égale à H égale à G1 diagonale. Donc dans ce cas-là, P est aussi la même chose que la jette de l'I de G1, donc on retrouve l'axiome adjointe. Donc il y a un autre cas qui est le plus sympathique, c'est le cas... dans la situation complexe, il y a un autre groupe qui remplace l'involution par une involution anti-holomorphe. On retrouve un groupe réel. Et le novage, je ne suis pas très familier avec ces manipulations. Mais en tout cas, c'est le cas où le groupe réel, c'est le groupe UNN. La situation algébrique, correspondance, c'est G égale à G de N. Theta de A, B, C, D et A moins B moins C D. Et dans ce cas-là, on a H égale à K égale à GLN fois GLN. Et P, c'est des matrices BC et 0 sur les blocs diagonaux. Donc on a l'axiome de GLN, donc. Là-dessus. Donc ça c'est un peu le cas le plus sympathique dans ce cadre des espaces symétriques. Donc en N égale à 1, on retrouve plus ou moins l'ensemble hyperbolique. Et là... Il y a aussi une condition, c'est une condition qui est enfin, le cas ou le cas quasi déployé. Donc ça c'est le groupe réel, donc le G réel. Donc GR est quasi déployé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est équivalent au fait que P règle est la même chose que G règle. Intersection de la vie de P. Dans ce cas quasi déployé, dans ce cas-là, I est commutatif. Et aussi lisse. Et dans ce cas-là, sauf le cas SO4N, SO2N fois SO2N, de le quotient régulier. Le quotient dans ce cas-là, c'est le quotient invariant et donné par le. C'est aussi un espace affine, donc ça c'est le résultat de Constant-Gallis. Et on peut démontrer que sauf dans ce cas un peu bizarre, le quotient régulier et le recoulement de deux copies de ce quotient, du quotient de Constant-Gallis. Et dans ce cas, dans le cas restant, apparemment, il y a quatre copies. Parce qu'il y a quatre orbites impotentes. Voilà, donc...
Quatre
orbites impotentes régulières. Voilà, donc ça, c'est l'exemple. On va discuter un peu plus la semaine prochaine quand on essaie de comprendre la fibration de Hitchin dans le cas du groupe réel. Mais je peux passer un peu plus de temps à expliquer cette action que je trouve vraiment rigolote. C'est l'action de Jacques et Rallis. Pardon ?
UPQ n'est pas. Ça, c'est le seul cas où le. Et, quasi déployé. Oui. Enfin, je pense qu'on peut tout toujours décrire ça, ce quotient régulier, mais. Donc, le cas de Jacques Peralis. Donc, la scène calcul que j'ai fait à V1. Donc ça, c'est le cas rigolote où, dans tout ce cas-là, vous voyez que le quotient n'est pas. C'est un schéma, n'est pas séparé, mais un schéma en rencontre de différents films. Mais ça, c'est le cas où le quotient régulier, ce n'est pas algébrique, mais qui n'est pas un schéma. Donc on va V, c'est un vectoriel de dimension n. Donc V, c'est son ensemble. Donc on va prendre M, les endomorphismes de V, fois V, fois V dual. Donc il y a le groupe G, c'est le groupe linéaire GNV. Donc c'est en quelque sorte c'est GLN. Indissant sur GLN plus 1. Donc n'oublie un peu l'une des coordonnées. Donc dans ce cas-là, enfin ça c'est le cas où Youn a étudié avant pour démontrer les fondamentaux de Jacques Peralis. Donc dans ce cas-là, vous voyez que le M, on peut vérifier que le quotient a une variante. C'est un espace à 20 dimensions 2n, donc il y a deux variables A et la variable B. Donc AN, c'est simplement les coefficients des polynômes caractéristiques de. Disons ça c'est A, X et C. Donc A c'est la matrice, X c'est un vecteur et C le covecteur. Donc le AN c'est simplement les coefficients des polynômes caractéristiques de A. Le Bn, ça, c'est autre chose. C'est, on va prendre les Bi, on va accoupler X et Si. Et on va mettre le A à la puissance I ou I moins 1. Ici. I. Le I qui est entre 0 et N moins 1. En tout cas. Donc c'est un peu bric-à-broc parce que d'un côté on prend des quotients, de côté on prend ça couplement. Donc c'est pour ça que le quotient devient bizarre. Mais on va l'étudier complètement. Maintenant on peut l'étudier complètement. Donc c'était pas fait comme ça dans Youn, mais j'ai refaire ce conclusion dans un article d'exposition dans les volumes de l'école d'été à Utah. D'abord, c'est pas clair quels sont des points réguliers. Il faut faire un peu d'algèbre binaire pour le comprendre. En tout cas, il y a. La première question, c'est qu'est-ce que c'est l'ouvert régulier? Donc ça, c'est vraiment... il faut réfléchir un peu, c'est pas très clair. Mais il contient clairement deux ouverts, c'est l'ouvert cyclique et l'ouvert co-cyclique. Donc cyclique, c'est les triplés A, X, I, tels que X, quand X soit un vecteur cyclique. Donc A, X, A, X, etc., engendre V. Et pour cyclique, c'est tel que si 1 engendre V dual. Donc ça, c'est des... Si les cycliques ou co-cycliques, c'est régulier. Mais la question, c'est est-ce que c'est tout? C'est pas vrai, mais c'est presque vrai. Donc il faut faire un peu d'algèbre linéaire. Voilà, donc le lemme. Si on. Donc soit.
A ici, un point irrégulier dans cet espace, et on va décomposer V en somme de V lambda, ou V dual en somme de V lambda, donc en espace propre généralisé. Donc par les valeurs propres de A, et donc les x et de psi se respectent, cette composition. Donc on a x est égal à la somme de x lambda et psi, une somme de psi lambda. Donc ici, c'est lambda, soit dans le K, supposons K est un clos. Alors la conclusion, c'est que pour tout lambda, dans K, ou bien x lambda ou bien psi lambda est cyclique, donc engendre V ou V dual respectivement. Donc pour chaque valeur propre, ou bien l'un ou bien l'autre est cyclique. Donc ça peut changer avec la valeur propre. Donc en particulier, ce qui est résumé, ce qui n'est pas du tout évident a priori, ça implique en fait que A est régulier. Comme élément des endomorphismes. Parce que pour chaque valeur propre, il est bloc. Donc il n'est pas du tout évident par des descriptions, mais qu'une fois qu'on étudie valeur propre à valeur propre, ou bien l'un ou bien l'autre est régulier. Donc je vais passer de ça, c'est relativement. Bon, c'est une algèbre linéaire, mais il faut réfléchir un peu, mais on trouve ça. Non, A est régulier, et ensuite, pour chaque fois que tu fixes un valeur propre de A, et dans les espaces propres, ou bien le vecteur.
X ou psi sont plus cycliques
dans chaque. Oui, oui.
Et un critère simple pour dire que ça régulier.
Pardon ?
Un critère simple, si tu prends la matrice des A plus J, X, plus psi, dans le nom de.
À partir de ça ?
Oui, à partir de. Sur la matrice des A exposant I plus J, indexé par I et J.
Ah, I plus J ici ?
Ouais.
Et qu'est-ce que tu fais avec ça ?
Psi. Avec les matrices.
Ah, j'ai pas oublié ? Ah oui, bon, ça, je m'apprends. Je ne connais pas ça. Mais en tout cas, donc là, on a, à partir de ce lemme, une description super jolie du quotient. On a donc le. On a AN, qui est donc les sim N de A1, donc le schéma Hilbert de N points, donc le schéma de Hilbert de N points sur A1. Et donc on a le on appelle donc XN. Donc le sous-schéma tautologique. Donc le sous-schéma fini tautologique. Donc c'est encore c'est le révèlement spectral en quelque sorte de AN. Donc ça c'est un morphisme fini. Et plat de. Degré N. Et on a donc j'appelle D le quotient régulier dans la relation hyperbolique, donc c'est le A2 moins 0 divisé par Gm. Donc une fois qu'on enlève l'axiome libre, donc le quotient régulier, le quotient pète, c'est la même chose. Oui. Donc le résultat est que en fait. Oui, c'est mis simple. Oui, oui. Non, ça m'étonnerait parce que je vois l'exprimer vraiment est assez drôle. Donc la proposition est que le quotient régulier, ici c'est la même chose que le quotient champêtre, le régulier. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à décrire ici ça, et isomorphe canoniquement à la restriction de Weyl de xn à an de d. On prend la droite affine à double et puis on fait directement la veille de xn à n. Et c'est ça de... Pardon. Et en tout cas, je vais vous passer la preuve, on écrit, ici c'est des champs, donc on écrit des premiers mots d'une, donc on arrive à identifier les deux. Mais en fait, la chose, c'est qu'on a des... On a ce M' qui est les endomorphismes réguliers de V fois V fois V dual. Et en fait, M' divisé au centre de champ de G, c'est la même chose que la restriction de la veille de Xn à N de A2 divisé par Gm. Et en prenant la partie régulière, ici on a M-règle, G, c'est la restriction de la veille de ce D, de A2 moins 0 divisé par Gm. Voilà. Donc ici, il faut réfléchir un peu à écrire ce que ça veut dire le champ, on arrive à l'identifier. Là, c'est vraiment pas de. C'est un sort de. C'est une... Mais ce qui est, que je trouve un peu rigolo, c'est qu'en fait, ça implique que le quotient régulier, ici, un espace algébrique, il n'est pas un schéma. Donc, remarque. Un espace algébrique, donc parce que là il n'y a pas de centralisateur, mais qui n'est pas un schéma. Ah, pardon, j'aurais pu continuer un peu la description ici. On voit aussi la description du morphisme du quotient régulier vers le quotient invariant. Simplement, disons qu'on a, le morphisme de A2 vers 1,1. Donc ici, on va la restriction à la veille de xn à n de 1,1. De 1,1 fois xn. Et donc c'est ça la même chose que le an fois bn. Donc on regarde ce morphisme et on fait la restriction de la veille. Et on retrouve le morphisme de quotient régulier.
Donc régulier, ça implique que la partie A est régulière.
Oui, c'est ça. C'est ça le point. C'est pour ça qu'on arrive à décrire.
Dans la partie A, il y a une orbite régulière, nipotente par exemple.
Oui, il peut être nipotente. Ben justement, ici, il est dans le point à n, les n points sont confondus.
C'est
le...
ça où les n points sont confondus.
Oui. En quelque sorte, on peut décrire quand c'est
On a donc c'est le AN, c'est la même chose. Donc ici on a un Z, un sous-schéma de dimension N de 1,1, et puis on a un morphisme S de Z dans ce A2 fois GM. Donc A2, l'une coordonnée dans un vecteur, l'autre dans un covecteur. Et quand on prend le produit, ça fait une dans A1, donc c'est ça le morphisme vers AN fois BN.
Il y a un vecteur, par exemple, fixe.
Dans V, c'est... Non, mais si on a le triple AX, XI... Tu vois, le morphisme ici, le reste, tu peux envoyer les deux sur zéro. Mais si c'est régulier, alors l'un doit être envoyé en tant que régulière ou l'autre en tant que régulière. Oui. Non, non, enfin, c'est... Ça a mis quelques jours à trouver ça, donc ce n'était pas... Non, en tout cas, ici, c'est à cause de ceci, donc on a, donc disons, appelons ceci HN, ce qui s'envoie sur CN. Et donc ça, c'est un morphisme étal, C'est un morphisme étal et birationnel. Et le CN ici, on voit comme CN, donc HN, c'est un couple de Z, et S va dans Z dans A2 moins 0. Sur GM, et CN, c'est Z, et juste une fonction de Z dans 1,1. Donc là, c'est morphisme. Et donc, si C, on a le F moins 1 de 0 à M point. Ça, c'est un sous-schéma de Z. S'il y a M point, la fibre. La fibre 1, 2 à puissance 1 point. Donc le, ça dépend de réduit. Il y a 1 point. Donc à chaque point, tu as le choix, ou bien le vecteur ou le covecteur. Ça fait 2 puissance 1 point. Donc ça, c'est une situation un peu rigolote. On a un morphisme qui est étal, birationnel, mais à des nombres de points, ça peut exposer à la puissance 2. Et pour tout ouvert, affine, on appelle ceci Pn. Pour tout ouvert, affine, U de Hn, donc c'est un schéma affine dans Hn, alors on a un morphisme de U vers CN qui est étal et birationnel. Donc ça U, c'est la même chose qu'un ouvert de Zariski de CN. Donc si PN est un schéma, PN va être une sorte de recoulement des ouverts de Zariski de CN. Et si U HN est un schéma, donc s'il peut être recouvert par les schémas de Zariski et non pas étal, est un schéma un ouvert Zariski, un schéma, alors pour tout fermer Y de CN, on voit bien que PN moins 1 de Y doit être recouvert, une union de ouvert affine
de Y. Donc, parce que ces propriétés, ça se préserve quand on restreint au sous-schéma fermé. Eh bien, on prend le truc, le Y, le plus méchant, donc c'est AN fois 0, donc AN BN. Eh bien, on calcule, on voit bien que pi n moins 1 de Y, c'est une union de I de 0 à n de U I n moins I. Donc il consiste en fait à diviser le sous-schéma fermé en deux parties disjointes à I n moins I éléments. Où U I n moins I, c'est à l'intérieur de A de AI fois AM moins I. Donc ici c'est ZI fois ZM moins I. Donc sous schéma fermé et disjointe de 1 1 de longueur I et M moins I. Donc ça c'est le discours que vous voyez. Mais là, le morphisme, lorsque n est plus grand que 2, si vous prenez i, il y en a 1, alors le morphisme de u, n moins i, vers a, n, n'a pas l'effet Sanzariski. Donc en tout cas, ça implique que le tout ne peut pas être un schéma. Donc voilà. Bon, je finis par donner un exemple. Donc là, depuis le temps, mais c'est un exemple qui est très intéressant, mais je n'arrive pas à comprendre complètement. C'est l'exemple. Donc ça, c'est l'exemple que je considère qu'on ne comprend complètement. Mais l'exemple me comprend moins bien. C'est très important. C'est l'exemple de la variété commutante. Dernier exemple. Donc M et XY dans les matrices NN, tant que X tant qu'une commute. Donc là, il y a l'action de GNN, qui agit simultanément sur X et Y. Donc dans ce cas-là, donc là on a M règle. Donc là, je n'arrive pas à décrire M-REC comme dans le cas de Jacques Rallis, mais il contient au moins le M-cyclique. Donc M-cyclique, c'est XY, donc M, tant qu'il existe V, donc V, il existe, donc ici le V n'est pas donné comme dans le cas de Jacques Rallis, tant que KXY, donc comme module de KXY de V, ça engendre V. Donc dans ce cas-là, donc oui, c'est évident que c'est régulier. Et justement, une fois qu'on fixe V, ça rigidifie le module. Donc dans ce cas-là, M, on a M cyc qui est inclus dans M reg et invariant, et M cyc, le quotient régulier. Et la même chose que le schéma Lindbergh de A2. Les sous-schémas dimension 0 de longueur n de A2. Parce que c'est par définition, c'est justement, une fois qu'on a fixé le V, donc rigidifier, ça consiste à fixer ce V. Et alors que le M mode G, c'est le schéma de Chow. A2. Donc dans ce cas-là, vous voyez bien que une partie de cette construction vous donne une résolution singularité du quotient invariant. Donc c'est un phénomène que je pense que c'est général. J'ai un peu comme le quotient invariant peut avoir des singularités arbitraires. Et en prenant la partie régulière, en trouvant une sorte d'ouvert raisonnable, on trouvera des jolies raisons de singularité. Mais voilà, c'est encore pas compris. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.